Et donc je passe la parole à Madame Valérie Lallemand, directrice de recherche à l'INSERM et membre du bureau de l'association L'Arbre des connaissances.
Merci. Merci de votre invitation. Merci à la BPI pour m'avoir invitée. Donc, je vais essayer de partager avec vous l'expérience qui est la mienne d'experte finalement, de scientifique experte, dans la relation à un public que sont les jeunes, avec voilà, mon expérience de cette association, l'Arbre des connaissances que vous venez de citer, qui est donc une association de chercheurs et de chercheuses qui ont décidé, il y a un peu plus de 15 ans, d'ouvrir la science aux citoyens en ciblant les jeunes. Avec, ça c'est une vision qui a été la nôtre, puisque je fais partie des anciennes de cette association à présent. C'est environ plusieurs centaines de scientifiques engagés en France au national. L'idée, c'était d'avoir deux objectifs principaux. Le premier qui était d'intéresser les jeunes aux sciences, mais tous les jeunes, pas les jeunes qui seraient des talents méconnus, qu'on ne connaîtrait, qui seraient par hasard dans un mauvais environnement qui ferait qu'on pourrait les rater. Non, c'est pas ça notre ambition. Notre ambition, elle est d'intéresser tous les jeunes aux sciences dans l'idée que plus tard, quel que soit leur métier, quel que soit leur rapport futur à la connaissance, ils puissent se sentir légitimes à se questionner, à s'intéresser aux sciences. Premier objectif. Deuxième objectif, faire des sciences un moyen, finalement, pour accompagner ce qu'on pourrait appeler l'esprit critique. Vous en avez parlé, Monsieur Blondeau également. Mais pas seulement l'esprit critique globalement, et puis pas seulement la démarche scientifique elle-même, mais faire des sciences un retour à ce qu'elles sont, c'est-à-dire un langage commun qui puisse rassembler des jeunes, quelles que soient leurs origines ethniques, culturelles, sociales, religieuses, autour de projets communs, avec cette idée de les accompagner dans une montée en compétences et une émancipation pour ce qu'ils vont devenir de futurs citoyens. Enfin, ils sont déjà des citoyens, mais disons les citoyens qui vont construire la société de demain. Ça, c'était nos deux principaux objectifs. Enfin, ça l'est toujours, d'ailleurs. Et nous avons pour ça trois leviers. Le principal, c'est l'expérimentation. Donc, mettre les jeunes dans une situation d'expérimenter. Le deuxième, c'est de construire un cadre qui soit favorable. Favorable à rentrer dans des sujets complexes, favorable à rencontrer justement des experts ou des connaissances, enfin, construire un cadre serein et agréable. Et troisièmement, l'animation des territoires. Vous voyez que dans ces trois leviers-là, finalement, on pourrait mettre beaucoup de choses derrière et pas seulement des scientifiques qui ont envie ou qui prennent conscience de leur responsabilité sociétale, mais finalement n'importe quel expert de la culture, de l'éducation et des sciences qui ont à leur disposition ces trois leviers, l'expérimentation, construire un cadre et animer son territoire ou produire des outils qui vont être favorables à l'animation du territoire. Alors, pour ça, concrètement, on a trois dispositifs tout à fait complémentaires et dans leurs objectifs et dans leur méthodologie. Le premier qui s'appelle apprenti-chercheur. Alors là, l'idée, c'est vraiment de mettre des jeunes dans des laboratoires de recherche, en tutorat toute l'année scolaire avec un scientifique et globalement de construire à nouveau ça de façon pensée sur un territoire, c'est-à-dire un partenariat entre un centre de recherche et des établissements du secondaire, un collège, un lycée. Ça ne vous aura pas échappé qu'on appelle ça l'enseignement secondaire et pourtant il n'y a quasiment aucun lien entre les collèges et les lycées aujourd'hui en France. Donc forcer ce lien en fait et construire voilà, des partenariats à des échelles locales pour favoriser la mixité sociale et en même temps permettre à des scientifiques d'ouvrir leurs portes de leur laboratoire à des jeunes pour construire des projets de recherche sur mesure, pas seulement pour eux, mais avec eux, tout au long d'une année scolaire, avec la réalisation à la fin de l'année de congrès des apprentis-chercheurs dans chacun des centres de recherche partenaires qui s'ouvrent là aux familles, aux enseignants, aux camarades de classe, et où les jeunes deviennent eux-mêmes les médiateurs de la recherche. Justement, ça n'est pas l'expert qui s'adresse au public, mais les jeunes qui s'adressent au public grâce à l'expérience qu'ils ont vécue. Donc là, on pourrait dire que finalement, ce dispositif-là, c'est la médiation scientifique par la démarche scientifique. Deuxième dispositif, c'est une plateforme numérique. Alors, on a beaucoup dit de mal quand même sur les plateformes numériques. En fait, on peut aussi en faire du bien. Enfin, on l'espère. Donc, une plateforme sur les neurosciences des addictions, qui s'oriente aujourd'hui plus largement sur les conduites addictives, qui vont être finalement une façon de produire de l'information scientifique, sourcée, actualisée, et qui est animée par du community management. Donc là, on est sur de la médiation scientifique par de l'information et une mobilisation de réseaux sociaux. Et un troisième dispositif, qui est le dispositif qu'on appelle « Jouer à débattre ». Donc, je vais vous parler un peu plus en détail, parce que les bibliothécaires ont un rôle important dans celui-ci, où là, c'est les sciences par leurs enjeux sociétaux, les sciences dans ce qu'elles impactent ma vie quotidienne, moi, citoyen lambda, ou moi, jeune, à partir de 14 ans. Donc, globalement, vous voyez, on a l'impression qu'on met à disposition des dispositifs pour les jeunes. Mais je voudrais insister sur le fait que ce que l'on fait, on ne le fait pas simplement pour les jeunes, on le fait avec les jeunes. Donc, c'est la notion de co-construction dont on a aussi plusieurs fois parlé précédemment. Mais surtout, on le fait aussi avec et pour les scientifiques, pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du dispositif apprenti-chercheur, quand on met tout le long de l'année scolaire des jeunes dans un laboratoire de recherche avec un scientifique, qu'est-ce qui se passe ? Globalement, on va demander à ce scientifique de construire un petit projet avec ce jeune. Alors c'est un après-midi par mois, c'est pas toute l'année, il a son travail de recherche, il est suroccupé, mais c'est quand même de se libérer un peu de son temps, d'être à plusieurs pour prendre en charge ce binôme d'un collégien, un lycéen, et non pas partir de ce qui nous anime nous, de nos passions à nous, mais de partir de l'autre. Qu'est-ce qui intéresse les jeunes à qui j'ai ouvert les portes de mon laboratoire ? De leur exposer un petit état de l'art accessible, donc c'est déjà travailler notre capacité à nous rendre audibles, mais au-delà de ça, c'est de remettre à l'autre les clés pour qu'il puisse se questionner et qu'ensemble, on puisse construire une démarche scientifique qui va permettre de répondre à la question de ces jeunes. Donc c'est vraiment ça l'ambition, et pour nous, c'est un vrai décalage. C'est faire véritablement, en tout cas c'est faire un vrai pas de côté. C'est non pas d'être top-down, d'être descendant, c'est-à-dire j'ai le savoir de l'expert et je vais délivrer ma science à ce petit jeune à qui je vais expliquer comment ça marche, mais c'est à côté de lui, faire en sorte que les choses émergent avec ce jeune. Ça nécessite quoi ? Ça nécessite du temps. Un, et deux, de la confiance. Mais en fait, cette confiance, elle se construit précisément parce qu'on structure cette action dans le temps, celui de l'année scolaire, et de rendez-vous réguliers. Et on a le temps d'accompagner des jeunes dans une évolution sur toute une année scolaire. Et dans une année scolaire, un jeune se transforme complètement. On passe... c'est une véritable transformation. Un jeune, ça change tellement vite par rapport à nous que l'accompagner sur une année scolaire, c'est aussi nous permettre de comprendre comment un jeune va changer, comment lui peut nous altérer au sens positif du terme, au sens de l'altérité. C'est-à-dire, petit à petit, parce qu'il va se sentir en confiance, parce qu'il n'y a pas d'échec ni de réussite. C'est-à-dire qu'on n'est pas un adulte au contact de ce jeune qui va évaluer ce jeune. On n'est pas non plus parent, donc on n'a pas pour ambition finalement d'être un... On est véritablement la personne tiers, le tiers de confiance. Et puis surtout, ces jeunes, ils vont justement nous altérer, je reviens sur cette notion-là, parce qu'ils vont nous questionner de façon totalement imprévisible. Et évidemment, on va les faire venir sur des sujets qui sont d'une expertise sans nom, alors qu'eux, ils parlent depuis la Lune, et nous, on s'intéresse à la fourmi. Donc évidemment, dans les questions qu'ils vont nous poser, on va être extrêmement surpris et forcément décalé. Et forcément, on va se retrouver à devoir lui dire bah, « je sais pas, en fait, je sais pas ». Mais parce qu'on a le temps, on va aller chercher ensemble l'information. Et là aussi, on construit quelque chose ensemble. Donc ça, c'est pour le volet apprenti-chercheur. Vous me direz, quelle est la place des bibliothécaires? Je dirais, peut-être là, pas beaucoup, mais en tout cas, c'est une façon de faire. Et c'est, un, se donner du temps, et deux, de placer une relation privilégiée qui est celle de la confiance et d'accepter d'être véritablement altéré au sens positif du terme. L'autre dispositif dont je voulais vous donner un peu plus de détails, c'est jouer à débattre, où là, l'objectif est de produire des supports de débat science-société pour des jeunes, avec l'idée justement de construire des débats qui peuvent naître de ces supports-là, qui s'articulent, en fait, chacun de ces supports s'articule autour d'un guide pour permettre à des professionnels de l'éducation, de la culture, des sciences qui seraient au contact de ces jeunes, d'animer en toute autonomie, mais surtout en toute légitimité, et à se sentir le pouvoir et la légitimité d'animer une séance de jouer à débattre, donc fournir de quoi outiller un tiers, n'importe qui ne soit pas un expert, justement. Deuxièmement, un jeu de rôle, avec l'idée, là, pour les jeunes, d'incarner de façon très concrète des questions sans société par un angle qui est l'impact dans ma vie quotidienne de... prenons un exemple, on a aujourd'hui 5 supports de débat, on en construit un 6e sur le climat et biodiversité, on en a 5, un sur, j'en cite un au hasard, sur intelligence artificielle et transport. On va produire un jeu de rôle qui va permettre aux jeunes de rentrer dans l'immensité de ce champ qui est l'intelligence artificielle, qu'on a limité à celui du transport, mais qui est déjà immense. Et on va permettre aux jeunes de se saisir de cette question éminemment complexe par une entrée ludique, mais aussi une entrée qui soit celle de la vie quotidienne. Comment, sur une question très précise, les jeunes vont rentrer dans cette question pour comprendre des enjeux et petit à petit monter en complexité, leur permettre de mobiliser certaines compétences qui vont être celles nécessaires au débat, de type de l'argumentation, de l'écoute, de la prise de parole, un certain nombre de compétences dont on ne se rend même pas compte quand on a l'habitude d'être dans la rencontre, d'être dans l'échange avec des publics, mais qu'en fait, ce sont des compétences qui ne sont absolument pas données à tout le monde, ni aux jeunes, ni aux adultes d'ailleurs. Donc, un guide pour des animateurs qui ne soient pas experts, des jeux pour mobiliser et pour engager les jeunes à comprendre les enjeux d'une question complexe et incarner des positionnements qui ne seraient pas les leurs, précisément. Et puis ensuite, une partie qui est justement de sortir de ce jeu de débat pour avoir une dimension réflexive, revenir sur ce qui a été échangé, parcouru, on a parlé d'arguments d'autorité, par exemple, de revenir à la fois sur la forme, mais le fond, et on fournit une base de documents, des ressources qu'on aura à noter de façon assez light, mais qui nous permet de savoir ce qui est une ressource plus ou moins neutre, plus ou moins difficile sur le sujet. Et on l'espère qu'à l'issue de ce parcours, on puisse organiser des rencontres, cette fois-ci, entre jeunes et experts, et c'est ce qu'on fait dans un certain nombre de cas. Donc l'année dernière, c'est environ 50 000 jeunes qui ont débattu grâce à Jouer à débattre. Et je tiens à dire que ce dispositif, vous voyez, tout de suite, on l'imagine en classe, avec des professeurs, etc. Mais l'origine de ce dispositif-là, ça a été une étude conduite entre le ministère de la Culture et l'INSERM, donc le service du livre et de la culture d'un côté et le service de médiation scientifique de l'autre, autour de trois mots-clés qui étaient « jeune », « science » et « médiathèque ». Et au cours de cette étude qui a été conduite, qui s'appelait « médiascience », je ne sais pas si je viens de vous le dire d'ailleurs, mais en 2011, on s'est rendu compte évidemment que le débat prenait une place importante dans ce tiers-lieu que constituent les bibliothèques, que pour autant, il n'y avait pas forcément de moyens, d'outils de débat. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, et que ce soit pour les bibliothèques, que ce soit pour des lieux de culture au sens large, que ce soit dans des centres même d'expertise scientifique, en France comme à l'étranger, comme à l'Europe, comme en Europe, eh bien, en fait, à chaque fois, il fallait tout construire. Construire un sujet débat, construire une journée comme aujourd'hui, ça a été énormément de travail, on l'a bien compris, Marion Loire nous l'a rappelé en introduction. Eh bien, à chaque fois, il faut tout reconstruire. C'est énorme. Et puis, on ne sait pas si on est légitime pour construire de façon juste une question de la façon dont on va poser les questions. Est-ce qu'elle est anglaise, pour utiliser un néologisme, de façon à être fidèle aux véritables enjeux? Mais quels sont ces véritables enjeux? C'est énorme, en fait, le travail à faire. Et donc, on ne le fait pas. Ou alors, on le fait, mais on ne peut pas, entre guillemets, capitaliser sur ce qui a été fait une fois, parce qu'on ne va pas le refaire et le re-refaire. Donc, on manquait de support. Et c'est vraiment cette étude Médiascience qui nous a permis de comprendre qu'on avait besoin d'un support physique, concret, qu'on puisse utiliser, réutiliser. Et puis qu'on pouvait faire vivre de façon différente en fonction de différents types de classes, de jeunes, et dont on pouvait se servir justement pour faire du lien en interprofessionnalité, j'oserais même dire en transprofessionnalité, c'est-à-dire entre des établissements scolaires qui peuvent faire la partie jeu de débat, par exemple, et puis une bibliothèque qui peut organiser une rencontre dans son espace pour là mettre les jeunes face à des experts. Et ces jeunes qui auront joué à débattre sur une question, on reprend l'exemple de l'intelligence artificielle et transport, je peux vous assurer qu'on est très très loin de ce qui se fait en général dans ce qu'on appelle des débats et qui sont en fait de gentilles petites questions préparées en classe pour monsieur ou madame l'experte Dieu vivant sur scène. Et là, on rééquilibre les balances. On a des jeunes qui vont poser des questions extrêmement pertinentes et des scientifiques qui, eux, de leur côté, ne savent pas plus débattre que les jeunes. Débattre au sens, et d'ailleurs, c'est ce que nous a rappelé Loïc Blondeau, il ne veut pas faire face au public parce que, justement, on va lui demander de se positionner, on va lui demander de répondre à des questions sur lesquelles il n'est pas précisément expert. Donc on a deux catégories finalement de scientifiques, si je veux être un peu schématique. Des scientifiques qui vont vous dire « Ah non mais moi je sais rien, vous m'invitez à un débat ? Ah non mais moi je viens pas. Vous m'invitez sur un plateau pour que ça soit, même pas télé, hein, je parle pas de télé, je parle même radio ». Pour parler, mon travail, je suis chercheuse en cancérologie, en biologie cellulaire du cancer. On m'invite à parler sur un plateau sur les nouveaux médicaments, l'immunothérapie dans le cancer, dans les cancers. J'aurais énormément de confiance à y aller, justement, parce que je vais me dire, mais je ne peux pas parler du médicament, en fait. Moi, je suis experte du mécanisme par lequel on arrive à un processus tumoral, une cellule évolue vers un processus tumoral. Je ne vais pas pouvoir parler d'immunothérapie, je n'y connais rien. Donc, je dis non à l'espace de débat. Vous avez une autre catégorie de scientifiques qui est, au contraire, je sais. Moi, au quotidien, en faisant de la biologie cellulaire, j'utilise des ARN, j'utilise des anticorps. Donc, évidemment, je peux venir sur votre plateau discuter vaccination et Covid-19. J'ai aucun problème à vous parler de l'épidémie de Covid. Et en fait, il n'y a pas des scientifiques ou des experts qui ont raison et des experts qui ont tort. Il y a juste des gens qui sont face à leur rapport à leur savoir et, à nouveau, la notion de cadre. Dans quel cadre vous allez placer ces experts ? Quand on les met au contact de jeunes qui ont joué à débattre, qui vont pouvoir rentrer de façon fine dans une question, avec des questions assez précises en fait, ben vous allez mettre en sécurité votre auditeur expert. Et en même temps, évidemment, vont arriver des questions qui seront totalement à côté de celles auxquelles il pourra répondre. Mais on est dans un cadre avec des jeunes qui est totalement bienveillant. On est à distance des médias, on est dans un échange serein. Et donc là, à nouveau, comme avec le premier dispositif dont je vous parlais, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'échec et de réussite. C'est-à-dire que moi, là, si je ne fais pas très bien, bon, ben, je vais me dire que ce n'est pas très grave, parce que finalement, j'ai confiance en vous. Et je me dis que, ben, au pire, vous penserez que je ne suis pas très douée, et puis bon, ce n'est pas très grave. Ce ne sera pas très agréable pour moi, mais pas très agréable pour vous non plus. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si maintenant on fait venir une retransmission, d'ailleurs je crois que c'est le cas, j'ai préféré ne pas me poser la question, eh ben, l'enjeu devient autre. Si on médiatise ce débat, l'enjeu devient autre. On n'est plus dans un cadre serein. Si on entre dans une question de débat par son côté socialement vif, on change tout. Et dans les supports de débat que l'on construit, on peut parler de biologie de synthèse. Je ne sais pas si certains parmi vous savent ce que c'est que la biologie de synthèse. Certains pourraient dire ce sont les nouveaux OGM. Quel est l'intérêt de prononcer le mot OGM dans une entrée dans un sujet de débat ? Aucun. Parce qu'on ne va pas pouvoir justement sortir de son idée reçue, de la représentation qu'on se fait. Par contre, parler concrètement, précisément, de ce qu'est la biologie de synthèse et petit à petit en comprendre les enjeux, on est véritablement dans le cœur du débat sociétal, mais on n'a pas appliqué le mot clivant qui va justement mettre à distance ce rapport de confiance entre experts et public. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, si j'ai du temps, si j'ai pas de temps. Donc, voilà, dites-moi. Moi, ça m'intéresse de ne pas être trop longue et de peut-être répondre plus, de fonctionner par échange avec vous et de vous donner des précisions. J'avais deux petites séquences de vidéos à vous présenter. Si vous voulez, je vous les montre. Ce n'est pas du tout obligatoire. Où vous voyez un peu des jeunes dans une situation de classe jouer à débattre. Et puis ensuite, une autre séquence qui est des jeunes ici à la BPI, dans cette même salle d'ailleurs, qui étaient assis à notre place. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut justement renverser la balance et mettre les jeunes aux côtés des experts. Ça vous dit que je vous les diffuse ? Bon, alors, d'accord.
L'Arbre des connaissances développe des dispositifs pédagogiques pour éveiller l'esprit critique des adolescents. Avec Jouer à débattre, ils abordent des questions science-société par des jeux de rôle, comme par exemple au lycée Germaine Tillon du Bourget.
Quels sont les impacts des innovations scientifiques dans la vie de tous les jours ? Quels bénéfices ? Quels risques ? Voici le type de questions que des lycéens vont se poser grâce au support Jouer à débattre. Exemple ici, avec l'humain augmenté. Les adolescents imaginent et incarnent des personnages dans un jeu de rôle pour défendre des idées qui ne sont pas toujours les leurs.
Pièce numéro 1, extrait de la conférence de presse du lancement des implants oculaires DataVis.
Donc toi, en fait, on va dire que t'as un problème.
Ta vision a changé.
Vraiment changé.
Ah, c'est bon, hein, ça.
Et là, je dis quoi ?
Vous dites qu'il n'y a aucun dégât dans l'environnement, mais juste avant, vous me dire que vous l'utilisez sur les animaux.
J'appelle un témoin.
Je suis le docteur Maxime Legros. Les produits DataVision sont une révolution.
Pendant 2 heures, on échange, on réfléchit, on examine des documents, on argumente, bref, on joue à débattre.
L'accusation gagne le procès.
Est-ce que vous auriez utilisé d'autres arguments si vous aviez été à la place de la défense ?
Monsieur, moi, je veux vous dire mon argument.
Une fois le jeu terminé, Jouer à débattre amène les élèves à revenir sur les enjeux qu'ils ont abordés, les questions qu'ils se sont posées et qu'ils pourront approfondir par la suite. Sur le site internet www.jeudebat.com, les jeux
sont ensemble et vont construire finalement toutes dans les étapes même de ce jeu-là. Alors ce jeu-là prend un scénario qui est un procès. Il y a d'autres supports de débat qui vont être des communautés de communes, par exemple, où il faudra prendre des décisions en fonction du groupe que l'on représente, des seniors, des lointains, des innovants, voilà. Et donc où là, on va questionner finalement la décision pour mon groupe. on pourrait dire, individuelle versus la décision collective. Donc les scénarios sont à chaque fois support de la question qui est débattue et ne sont pas tellement reproductibles d'un thème de débat à un autre, parce que justement, il y a certains sujets qui, en fait, d'ores et déjà sous-entendent trop de clivants pour être résumés sur la forme d'un scénario de procès. Surtout, ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut sortir de la notion de débat pour et contre, mais simplement que les jeunes sortent de ce jeu de débat avec l'idée que se questionner, un, c'est bien, et c'est le début, un, pour l'engagement, deux, pour justement pouvoir débattre précisément. Et puis, par ailleurs, comprendre que l'on peut se positionner de façon plus ou moins favorable sur une certaine notion, et en fait plus ou moins défavorable sous un autre registre. Typiquement, on a des balances bénéfices-risques d'un point de vue de la santé qui pourraient être, où on pourrait se positionner tout à fait de façon favorable. Et puis, sur le registre éthique, qui est une autre dimension du débat, eh bien, être plutôt défavorable, et encore, tout dépendra si on parle de la liberté ou de l'égalité, par exemple. Donc, si vous avez toujours envie de voir un petit peu de jeunes, je vous montre la deuxième vidéo.
Homme-machine, bioéthique, médecin 2.0, voiture connectée. 40 élèves des lycées parisiens Jacques Decour et Henri Bergson ont l'opportunité de rencontrer des experts pour échanger avec eux sur les grands enjeux sociétaux soulevés par l'intelligence artificielle. Pour aborder le sujet...
Alors, je vais essayer de passer en espérant que ça télécharge assez vite. Je voudrais juste vous montrer la fin.
Les experts, contrairement à nous, ils ont des connaissances plus poussées sur le sujet. C'est eux qui peuvent le mieux répondre à nos questions, justement. Leurs réponses ont été pertinentes et elles ont, en tout cas, moi, ça a mis quelques trucs au clair.
Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous pensez un jour être remplacé par l'intelligence artificielle ?
C'est une bonne question. C'est une démarche extrêmement dynamique, pragmatique, et c'est une pédagogie par le faire.
C'est important d'aller voir les jeunes parce que ça les concerne. Et là, en plus, comme ça a été préparé, qu'ils ont fait cet effort d'apprendre le jeu, de s'en emparer, du coup, ça fait une qualité de débat qui est vraiment intéressante.
Cette appropriation et ce questionnement et générer cette forme de réflexivité chez les jeunes me paraît absolument essentiel.
Alors, bon, vous voyez que là, il a été dit deux choses. Excusez-moi, vous voyez, je ne suis pas forcément douée avec les outils numériques. Hein.
Protection des données, algorithmes, prédictions, relations homme-machine, bioéthique, médecin 2.0, voiture connectée. 40 élèves des lycées parisiens Jacques Decour et Henri Bergson.
Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez entendu la question, la remarque du jeune qui a été sur l'intelligence artificielle, qui questionnait un des scientifiques d'INRIA et qui lui a dit « Mais est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'un jour vous serez remplacé ?» C'était quand même monumental, cette question. C'était justement permettre à ce chercheur expert d'avoir cette réflexivité sur son propre travail de recherche. C'est incroyable. Et donc, vous voyez que les experts ils étaient ravis d'être aux côtés de ces jeunes. Ce qui était intéressant, et peut-être je peux vous citer cette anecdote, c'est qu'à la toute fin de cette séance d'échange, de discussion entre les jeunes et ces experts-là, une collégienne, à la toute fin, ça faisait une heure et demie qu'il y avait des questions, des échanges, elle pose la question, cette jeune fille, cette jeune femme, elle pose la question « Mais vous, vous en pensez quoi de l'intelligence artificielle ?» Alors lui, il était complètement démuni. Il s'est dit « Non, qu'est-ce qu'on vient de dire pendant une heure et demie ?» Et en fait, c'était assez drôle parce qu'avec l'expérience, en fait, on comprend comment les jeunes fonctionnent. On comprend aussi les degrés de lecture qu'il faut avoir. En fait, la question de cette jeune fille, c'était pas « Vous, chercheur d'INRIA, c'était vous, monsieur Rougier, vous qui êtes parents d'enfants qui ont mon âge, qu'est-ce que vous en faites de cette question-là » Alors, c'est intéressant parce que, en fait, c'est à force de pratiquer, on voit bien, finalement, d'être confronté à des jeunes, si je peux dire, ou d'être au contact de ces jeunes, qu'on va apprendre à décrypter. Et je pense que vous qui avez affaire à beaucoup d'adultes, vous devez voir ça également tout le temps, en fait. C'est certainement pas qu'une spécificité des jeunes, même si elle est très prégnante chez les jeunes. Et donc, on voit bien que parfois, l'expert, il n'entend pas, en fait, la question. Et c'est parce qu'on va pratiquer, c'est parce qu'on va nous mettre au contact, à nouveau dans un cadre serein, que petit à petit, on va apprendre. Mais en fait, on est peut-être expert de la question, mais on est certainement pas expert du débat. Voilà. Donc je veux bien prendre vos questions puis échanger avec vous tous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai noté un fil rouge entre vos trois interventions très différentes. C'est l'importance de la proximité, de la finesse, du contact et de la co-construction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est revenu à des niveaux, dans des contextes très différents, mais ça liait réellement vos interventions, j'ai trouvé.
Oui, co-construction, expérimentation, je dirais aussi, qui est beaucoup revenue. Donc,
et la notion du temps.
Et
la notion du temps.
Et la notion du temps, tout à fait. Alors, c'est certainement celle qui vous manque. À vous, en bibliothèque, je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question. Alors, peut-être une remarque avant, si vous avez des questions, j'espère que vous en avez, sinon je vais me vexer moi aussi. Une remarque, c'est quand même ces supports de débat. Vous voyez, ces 50 000 jeunes, je vous ai dit l'année dernière, on les a construits pour vraiment les mettre à disposition des professionnels de l'éducation et de la culture, aussi des sciences. Au final, c'est 60% d'enseignants qui les utilisent, et seulement 15% des bibliothécaires. Donc moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous percevez comme étant une limite pour vous à organiser. Alors nous, évidemment, comme on essaye de faire les choses pas trop mal, il y a ici une chargée de projet de jouer à débattre et qui pourra aussi répondre à vos questions et qui mène chaque année des évaluations sur les pratiques autour de jouer à débattre auprès des professionnels qui s'en sont emparés. Et ce qu'on note, c'est souvent une difficulté à créer un partenariat justement avec un lycée, etc. Mais c'est là-dessus que nous, on peut accompagner. Peut-être ce que l'on peut noter, c'est aussi une difficulté à oser le jeu et surtout à oser faire, alors même qu'on donne des outils qui sont, sur la partie jeu en tout cas, absolument clés en main. Donc, c'est les jeunes qui font tout, en fait. Et l'aspect recherche et ressources documentaires, vous savez déjà hyper bien faire. Donc, c'est vrai qu'on peut noter que finalement, si on vient animer pour vous, alors là, il y a énormément de candidats. Par contre, que les bibliothécaires soient eux-mêmes en charge de faire jouer, de faire débattre directement, il y a une petite réticence et ça m'intéresse d'avoir aussi votre retour.
Merci. Bonjour. En fait, la question, c'est combien de temps ça prend ? Parce qu'on n'a pas forcément des espaces disponibles longtemps pour 10, 15, 20 jeunes qui viendraient à la bibliothèque.
Alors, en général, justement, parce qu'on voulait que ça puisse tenir dans une séance de cours avec cette idée de faire du décloisonnement entre l'éducation et la culture et les sciences, les jeux de débat eux-mêmes, c'est 1h30. Et ensuite, il y a une partie réflexivité qui peut donc... l'ensemble peut tenir en 2 heures. Ce que l'on voit dans la pratique, c'est que souvent, finalement, les professionnels vont s'en servir pour construire de véritables projets qui vont être distillés sur l'année ou sur plusieurs séquences, qu'elles soient pédagogiques ou culturelles. Et donc, avoir des temps fragmentés. Vous voyez, le temps, justement, du jeu de débat, le temps de la réflexivité à distance, le temps des recherches documentaires, un autre temps, et enfin, l'organisation d'une rencontre avec un expert. Et donc, on va avoir plusieurs séquences. Et là aussi, ça présente un certain intérêt si on veut regrouper des professionnels d'origine différente à chacun de ces temps, ou simplement parce qu'on n'en a pas beaucoup à sa disposition à l'instant T, justement.
Alors déjà, juste pour vous dire que j'ai trouvé votre intervention mais extrêmement pertinente et intéressante. Et forcément, je pense que dans nos têtes, des idées de production, des idées d'animation, de MI en bibliothèque, ça a très vite émergé. Et j'ai trouvé que votre positionnement était super intéressant et ça m'a renvoyé à un moment donné un paragraphe du livre de Laurent Petit sur l'éducation aux médias et à l'information qui parle d'essayer de faire émerger... d'utiliser l'intelligence collective pour faire émerger des points saillants, des questions dont on pensait peut-être avoir conscience qu'elles étaient absolument importantes, nécessaires, avec beaucoup de préjugés en tant qu'apprenant. Et au final, le fait de se mettre au même niveau que les autres, en tout cas de ne pas avoir cet ascendant aussi vertical, c'est cet appel à l'intelligence collective et partagée qui permet en fait d'éveiller l'esprit critique. Et je pense que quand vous avez dit que le chercheur se positionne à côté de l'élève pour essayer de faire émerger avec lui tout un tas de raisonnements, de questionnements, de rouages intellectuels pour qu'il puisse se poser de bonnes questions, moi, ça m'a de suite fait penser à l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est vraiment une pièce maîtresse dans l'EMI. Et on a la difficulté à comprendre ce que c'est, comment ça s'entretient, comment ça, et surtout comment il émerge, surtout. Comment on le stimule, mais même comment, vraiment de la base, il parvient à émerger. Et votre positionnement et la stratégie que vous développez avec ces jeunes et le positionnement que vous avez avec eux, j'ai trouvé ça, mais super intéressant. Je voulais vous remercier pour votre intervention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que l'esprit critique, chez la plupart des scientifiques, ils ont... c'est presque une attitude. Donc ce qui est difficile, c'est précisément ce que vous dites, hein, c'est de le faire émerger et puis même d'en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on a tellement développé de réflexes parfois qu'on a du mal à l'expliciter. Et donc c'est vraiment ce travail-là qui n'est pas facile du tout, hein, et je ne dis pas du tout que tous les scientifiques y arrivent. Mais en tout cas, c'est notre souhait et c'est comme ça qu'on veut construire nos dispositifs pour leur permettre de s'y confronter. En sachant que s'ils ratent un peu, c'est pas très grave, ils recommenceront l'année prochaine et ce sera mieux.
J'avais une question peut-être qui s'adresse à chacune de vous. On a beaucoup parlé donc du rapport au temps, on a parlé d'accompagner, d'être à côté, de faire lien. Comment on peut articuler ça avec la pratique numérique? Est-ce que là, il n'y a pas une difficulté justement? On a vu que la pandémie nous avait amené à être très isolés physiquement, mais également aussi seul face à son écran. Et moi, je vois une difficulté là que je n'arrive pas complètement à résoudre dans ma pratique professionnelle. Comment on articule cette question de continuer à faire lien, à être avec l'autre, pour pouvoir débattre, pour pouvoir échanger dans cette pratique numérique?
Alors justement, ce que vous exposiez vraiment, c'était vraiment très intéressant parce que ça donne... aux personnes, à ces jeunes, une alternative vivante au débat en ligne qui se manifeste souvent sous la forme de commentaires et parfois même de trolling. Mais justement, ces personnes-là, ces jeunes élèves qui vont être éduqués au débat, peut-être qu'ils auront beaucoup moins tendance à troller en ligne parce qu'ils vont se dire maintenant on est capable de beaucoup mieux que ça. Nous, on parle avec des scientifiques, ils ne disent rien, je ne vais pas vous envoyer des insultes sur YouTube, désolé, je vaux mieux que ça. Je pense qu'il y a vraiment cette alternative à l'écran, à la solitude devant l'écran qui est très forte, et on ne peut pas remplacer ce qu'on disait, la proximité, l'accompagnement, la maïeutique. Hein, vous soulignez justement cet aspect de faire émerger l'esprit critique, de bas en haut, donc c'est vraiment ça, c'est ce rapport maïeutique. Tout ça nous démontre, en fait, c'est vrai que dans nos trois interventions, ça nous démontre que le numérique ne remplace absolument pas le lien. Alors la question du pass sanitaire, soit il y a un président qui a assez de force pour imposer la vaccination obligatoire, surtout aux gens qui ont des enfants et qui priveraient sinon leurs enfants de ces lieux indispensables, soit ce sera, il y a pas, à mon avis, il y a pas de, le numérique ne peut pas remplacer ces expériences qui sont même sensorielles, hein, je dirais, parce que là les jeunes et les scientifiques se rencontrent, se voient physiquement. C'est pas forcément des gens quand on est en collège qu'on rencontre physiquement, et je suis sûre que si on les voyait sur un écran, ça n'aurait pas du tout le même effet, surtout quand on est jeune. Donc je pense que là, tout ce qu'on a dit, ça renforce plutôt l'idée que le lieu physique et le regard et la parole, l'échange de paroles sont absolument irremplaçables.
Oui, c'est absolument certain. Et donc pendant la période pandémique, vous imaginez bien que l'accueil des jeunes dans les laboratoires de recherche, ça a été un petit peu compliqué. C'était déjà compliqué de faire de la recherche. Et on avait justement proposé de travailler avec les scientifiques qui avaient envie d'y réfléchir, à construire des solutions à distance, en distanciel, pour construire des projets de recherche avec des jeunes qui seraient à la maison, puisqu'on fait tout ça en périscolaire, en lien avec le scolaire, mais en périscolaire, sur l'aspect apprenti-chercheur. Et donc, ça voulait dire équiper les jeunes qui n'ont pas d'ordinateur en ordinateur. Enfin, ça voulait dire beaucoup de choses, mais c'était totalement possible. Et en fait, on s'est rendu compte que les scientifiques, ils voulaient voir des jeunes, des vrais jeunes dans leur laboratoire. Donc, pour la plupart, soit ils ont dit non, soit ils ont dit, en fait, on va se débrouiller pour que ça ait lieu quand même. Donc, avec un aménagement extrême des conditions, mais qui a été possible. Alors ça veut dire aussi qu'on a fait le deuil de la masse pour le qualitatif. Mais en fait, vous voyez bien qu'à partir de ce qu'on tire comme fil sur un jeune ou sur un binôme de jeunes, derrière vous avez ses copains, derrière vous avez la famille. Il y a énormément de choses qui se jouent dans le repas à table. Alors tout le monde n'a pas la chance de pouvoir dîner avec son papa et sa maman le soir pour parler de sa journée. Mais quand ça se fait, ben, c'est déjà une chance inouïe. Et les gens n'ont pas le temps de s'intéresser aux sciences, y compris quand on en a été exclu parce que à l'issue de la terminale, on vous a dit que vous étiez mauvais en maths, donc laissez tomber, hein, vous êtes contre-sélectionné. Donc vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de vous intéresser aux sciences, mais vous vous intéressez à votre enfant, donc il se passe quelque chose à ce moment-là. Et puis, même indépendamment de ça, en fait, on va arriver, même s'il n'y a pas le fameux dîner à table où on se partage les choses, je peux vous assurer que quand on ouvre les portes de mon laboratoire de recherche au Collège de France à des familles qui sont à distance, qui prennent le RER, qui viennent du lycée du Bourget, là, qu'on a vu justement, les familles sont là, elles viennent, elles osent rentrer parce qu'on a créé le cadre pour qu'elles se sentent bienvenues dans cette institution hyper élitiste qu'est le Collège de France. Alors, comment on le fait quand on a des règles très strictes ? Effectivement, ça va se faire par petites touches et pas tous ensemble. Ça veut aussi dire d'être capable de se déplacer. Ça veut dire qu'on a des scientifiques, par exemple, d'INRIA ou de 3DS, enfin d'entreprises qui font des sciences, qui font du numérique, justement, qui se sont déplacés en périscolaire le mercredi après-midi dans les établissements scolaires pour pouvoir mener à bien ce projet. Et sur les séances de débat, ça a pu être... on n'a jamais organisé de séance de débat en ligne. Par contre, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, parce que à partir de ces jeux de débat qui sont faits pour des jeunes à partir de 14 ans, à l'origine c'était pour des lycéens, et puis on a vu un vrai besoin chez les plus jeunes. Et en fait, cette année, depuis l'année dernière, on a expérimenté sur, par exemple, IA et santé, ou sur la biologie de synthèse, justement, de faire jouer des étudiants en médecine, en deuxième année de médecine. Donc c'était entre 800 et 1200 jeunes qui ont joué à débattre avec des salles sur Zoom qu'on a réunis, qu'on a mis au contact de certains experts, justement, après, et qui ont pu débattre. Et c'est dans le cadre de modules d'éthique dans la deuxième année de médecine. Donc, en fait, il y a toujours des espaces possibles, si on ne se décourage pas. Et même si ce n'est pas idéal, personnellement, je prône le un peu de contact, c'est mieux que pas de contact du tout.
Je vous remercie. J'ai une question. Alors là, ça va être plutôt des questions très pratiques. Alors, je suis extrêmement intéressée, comme je pense pas mal de collègues dans la salle, par le dispositif « Jouer à débattre ». D'un point de vue très pratique, préconisez-vous plutôt effectivement de mettre en place ce dispositif au sein d'une médiathèque en lien avec un établissement scolaire, une association ou un appel directement aux jeunes, sachant que, comme tous mes collègues en médiathèque, la difficulté est de conserver les jeunes qui, à un certain âge, commencent à ne plus fréquenter la médiathèque. D'autre part, préconisez-vous plutôt une médiation externe confiée plutôt à des gens compétents, ou est-ce que nous-mêmes pouvons le faire? Et est-ce qu'enfin vous avez des exemples concrets de médiathèques qui ont donc mis en place ce dispositif, et cela nous donnera peut-être une espèce de petite boîte à outils avec des pistes à exploiter?
Alors, pour répondre à votre première question, mon conseil serait, vous faites bien comme vous avez envie de le faire, et là où c'est le plus simple pour vous et où vous vous sentez le plus à l'aise. C'est le premier conseil que je pourrais donner. Évidemment, d'être avec des jeunes captifs, qui est le contexte classe, c'est plus facile. C'est aussi plus facile parce que vous allez les faire venir dans votre espace, dans lequel ils ne viennent plus, justement, et ils vont venir et peut-être qu'il s'y passera quelque chose. Peut-être pas, hein, c'est pas gagné. Mais peut-être qu'ils reviendront une deuxième fois plus facilement parce qu'ils sont venus une première fois dans un contexte classe. Donc c'est facile, et finalement c'est pas très compliqué de se mettre en relation avec un établissement scolaire de proximité. C'est plus compliqué de trouver des enseignants qui ont aussi envie. Mais c'est là où aussi, au niveau de l'association, on peut accompagner pour la mise en lien avec... l'académie, par exemple, pour trouver des établissements scolaires qui auraient envie de mettre ça en place. Franchement, c'est pas très lourd, vraiment. Quant à animer vous-même, moi je dirais, mais oui, bien sûr, animez vous-même, c'est fait pour ça. Et vraiment, je pense qu'une fois que vous l'avez fait une fois, vous vous rendez compte que, certes, il y a des documents à télécharger, tout est imprimable sur des pauvres imprimantes noires et blancs, enfin, c'est fait exprès pour être le plus cheap de cheap. Il vous faut lire un peu les pièces de jeu et puis le guide de l'animateur, mais enfin, justement, en fait, il est très documenté, donc finalement, vous êtes très, très accompagné déjà. Donc, je trouverais ça dommage que vous n'osiez pas le faire par vous-même. La troisième question, c'était, ça y est, j'ai déjà oublié.
Les bibliothèques.
Ah, des expériences. Alors là, oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et puis surtout sur le site de ressources. Il suffit que vous vous loguiez, enfin, vous créez un identifiant. Ensuite, c'est gratuit et vous pouvez accéder au jeu. Pour nous, c'est important que vous qu'il y ait ce premier accès parce que ça nous permet de vous identifier et de pouvoir vous contacter. Et c'est Camille Volovitch qui est là et qui avec Clara Fruchon, elles sont deux, et tout de suite elles vous enverront un mail. C'est assez saisissant parce qu'il y a quand même un très grand nombre d'utilisateurs, mais pour vous proposer de l'aide si c'est nécessaire, pour vous avoir votre retour d'expérience, etc. Donc une fois que vous vous loguez, vous avez un espace qui est attenant à chaque jeu de débat, à chaque thématique, donc, où vous allez voir des ressources, et vous allez voir qu'un certain nombre de documents, de bibliothécaires ont d'ores et déjà alimenté en ressources, avec leurs propres ressources, en fait. Donc, comment mettre en musique, finalement, leurs ressources bibliographiques, documents, de livres, etc., et d'en mettre à profit les autres utilisateurs de jouer à débattre. Mais je veux bien, Camille, si ça vous embête pas, que Camille réponde sur un exemple précis, par exemple, qui lui semble pertinent. Sur des bibliothèques qui ne soient pas forcément des bibliothèques, justement, départementales, nationales, mais bien une bibliothèque municipale lambda, je dirais.
Oui, merci Valérie et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis le point contact de ce dispositif qui est à votre disposition et que je vous invite vraiment à découvrir. Et Valérie ne sait pas que notre site internet envoie des messages automatiques quand vous créez un compte.
Oh, je suis déçue.
Elle croit qu'on répond. Mais après on vous spamme plus. Hein. Il y a juste ce mail. Après on vous écrit une fois par an pour prendre des nouvelles, mais on s'engage à ne pas vous spammer. Par contre, si vous nous contactez, si vous nous envoyez un mail, là c'est nous personnellement, qui répondons le plus rapidement possible à toutes les demandes. Donc juste pour répondre peut-être sur des exemples concrets. On a des bibliothèques qui vont se servir de jouets à débattre pour alimenter une offre au collège et au lycée. Donc c'est soit des contacts préexistants, soit un nouveau contact qu'effectivement on peut faciliter parce que nous on a des partenariats dans les académies, donc on peut aussi dans des formations conjointes ou des présentations vous présenter les jeux, vous faire jouer. Moi souvent je fais des formations de bibliothécaires où je fais jouer les bibliothécaires. Et du coup, une fois que vous y avez joué, c'est encore plus simple de l'animer après avec des jeunes. Donc ça veut dire accueillir une classe. Alors, c'est vraiment des supports qu'on veut souples et adaptables. Donc, on a vu des gens redécouper les temps de jeu, faire le début en classe et la fin du jeu en bibliothèque le samedi après-midi en invitant les élèves à venir avec qui ils voulaient. Donc, on a perdu des élèves, mais il y a des élèves qui sont venus avec leurs trois frères, leurs deux copains, leur maman. Du coup, ça faisait un moment familial. Il y avait un chercheur après. C'était vraiment super intéressant. Et ils avaient commencé le jeu et puis ils le finissaient. Ça, nous, on n'avait jamais pensé à ça, mais c'est les professionnels qui l'ont inventé parce que ça correspondait à leurs besoins. Donc Valérie a raison, il faut vraiment faire ce que vous... Si vous êtes plus à l'aise que ce soit l'enseignant qui anime le jeu, y compris chez vous, pourquoi pas ? Après, c'est vrai que nous, on travaille vraiment un guide pas à pas et clé en main pour que n'importe qui puisse s'en saisir. La question de la légitimité, elle est importante pour nous, pas seulement chez les jeunes, mais aussi chez nos utilisateurs. Ce n'est pas des jeux pour des experts, c'est des jeux pour des citoyens qui souhaitent faire du débat science-société ouvert, nuancé, argumenté. Donc vous êtes tout à fait compétent, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, vous êtes tout à fait compétent pour prendre ce guide de l'animateur et animer la séance. Ce qui peut se faire aussi, nous on le voit notamment à Paris, c'est de l'ouverture au grand public sur de l'événementiel. S'il y a des fêtes de la science, là, les bibliothèques à Paris avaient fait un événement avec l'INSERM qui s'appelait l'automne des sciences. Donc elles proposaient au grand public du jouet à débattre le week-end. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas jouer à débattre à moins de 10, 12, 15, c'est mieux. Et comme on l'a dit, ça dure 1h30 minimum. Donc le grand public qui passe à la bibliothèque sans s'être inscrit, c'est vraiment trop aléatoire, c'est trop risqué. Donc ça veut dire faire des inscriptions en avance. Ça veut dire potentiellement annuler la séance si la veille, on n'a que 3 inscrits. Mais ça, ça se fait. Et nous, on peut faciliter des rencontres avec des chercheurs. Évidemment, plus tôt on le sait, mieux c'est. Mais voilà, ça peut être de l'événementiel grand public. Moi, j'ai animé ou assisté à des séances. Du coup, le public était intergénérationnel et où ça apportait beaucoup au débat aussi. Où, du coup, les ados étaient soit avec leurs parents, soit entre eux. C'est très variable. Du public scolaire, du grand public sur de l'événementiel, où on voit aussi des bibliothèques qui s'en servent dans le cadre effectivement de cycles plus larges autour de la culture scientifique. Donc, par exemple, notre jeu sur l'humain augmenté, il peut être lié à de la science-fiction, à une expo. Donc voilà, ça peut être en appel avec de la littérature, avec du cinéma, avec une expo, et faire du lien aussi avec des centres de culture scientifique et technique sur vos territoires. Ça, nous, c'est aussi notre ambition, de vous aider à faire du lien et à animer les territoires pour que... Et d'ailleurs, il y a des BDP qui font appel à des centres de culture scientifique pour animer du jouer à débattre. Voilà, pour nous, en fait, ça a du sens et c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à inventer d'autres choses que je pourrais donner en exemple.
Oui, bonjour. Je voulais juste vous livrer une réflexion générale que je me fais au fur et à mesure des différentes interventions. J'ai l'impression qu'il y a une valeur qui apparaît dans chacune de vos interventions et notamment dans ce dernier dispositif, à savoir une forme d'humilité des sachants, et que c'est relativement nouveau. J'ai l'impression que là, on aurait tout à gagner à préciser que, quelque part, l'arrogance, elle a changé de camp. L'arrogance, elle est du côté de l'opinion. Du côté des toutologues dont vous parliez tout à l'heure, alors que justement, les gens qui savent ou dont le métier est d'informer les gens reconnaissent, vous en aviez parlé tout à l'heure, qu'on peut se tromper, on peut revenir en arrière, on a une méthode, et cette méthode, elle suppose une forme d'humilité, qui suppose que même les scientifiques puissent se mettre au niveau d'élèves de 14 ans et dire « Ah bah tiens, oui, cette question, j'y avais pas pensé. » Et est-ce que c'est pas un axe que l'on peut particulièrement mettre en valeur, notamment en termes de communication, pour entraîner les gens avec nous et dire que cette démarche globale, eh ben, elle est notamment pétrie d'humilité et qu'on en a peut-être bien besoin en ce moment.
Entièrement d'accord. Oui, et d'ailleurs, cette arrogance qui est du côté de l'opinion, elle pourrait même, on pourrait même faire pour qu'elle n'y soit pas. Quoi. Enfin, ce mot d'opinion, ça devient une espèce de spectre un peu comme complotiste, tout ça. C'est peut-être ces sortes de zones d'ombre. Finalement, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'être arrogant. Là, tout ce que vous venez de démontrer, c'est un débat qui va au-delà du débat d'opinion, qui prend le temps aussi de s'inscrire dans différents registres. Une chose est vraie selon tel plan de réalité et intéressante selon tel registre. Et je pense que oui, l'arrogance, pour moi, c'est une sorte de chose qui est d'un autre âge. On n'en a vraiment pas besoin, ça n'apporte rien. C'est pas du tout utile au processus démocratique. Et je pense qu'on peut, à travers toutes ces expériences, démontrer aussi qu'on peut se passer de certaines passions tristes.
Mais il me semble que l'arrogance, c'est aussi souvent une peur. Et l'arrogance, elle est souvent celle qu'on entend le plus. Donc des scientifiques arrogants, il y en a eu et il y en aura toujours. Et des gens arrogants, il y en aura de la même façon.
Crédit. Ça, c'est vrai, ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, on leur donne moins crédit et en quelque sorte, on a moins de pitié pour, comment dire, on n'a pas de pitié, ils ne nous impressionnent plus. Alors qu'encore, il y a encore 10 ans, on était là à flageoler. Non. Là, je pense qu'on est en train de se dire, vraiment, il y a des...
Oui, c'est le modèle quand même de l'homme blanc dominant avec les cheveux blancs et une grande blouse.
Blanc ou blanc ou pas.
Mais quand même souvent en science, c'était quand même souvent, et en particulier en sciences expérimentales, c'était quand même souvent le modèle. Alors encore plus biomédical, dont je suis issue forcément. Mais donc il faut aussi casser ces modèles. Mais ça veut dire aussi justement vous mettre au contact quand on organise des rencontres avec des scientifiques qui ne soient pas forcément la superstar de système international hyper visible qui a sorti son dernier bouquin. Exactement, j'imagine.
L'histoire là, on retrouve exactement les mêmes vieilles structures. Moi, quand j'étais encore étudiante, on avait encore cette attitude un peu de la star transcendante, et puis on la voit, on est comme béni, c'est de la religiosité déplacée. Et ça a dû, je pense que ça a fait du mal aussi au processus démocratique. en sciences comme dans les médias.
Et de la même façon sur l'opinion publique, je pense que même dans les... On a beaucoup parlé de la défiance sur le pass vaccin, enfin sur la vaccination notamment, mais il y a énormément de raisons pour lesquelles les gens... Enfin, il y en a eu en tout cas, ça me nuise, mais des raisons pour lesquelles les gens étaient ou n'étaient pas favorables à la vaccination. Il y a de l'anti-vaccin extrême par idéologie, mais parce qu'ils ont toujours été anti-vaccin. Parce que ça correspond pas... Enfin, on leur demande de faire un travail qui est en fait contraire à leurs principes depuis toujours. Donc cela, mais comment vous voulez... Enfin, ça n'a, à mon sens, pas beaucoup de sens d'en faire aussi une cible sur laquelle taper.
En tout cas, de pas trop les
stigmatiser. Et de fait, effectivement, ils rentrent pas dans les bibliothèques en ce moment. J'espère que ce sera pas une fatalité pour toute notre vie et toutes nos vies. Mais enfin, c'est aussi ça la démocratie. Hein, c'est aussi accepter ces raisons-là et ces personnes-là d'exister et de voilà de. Et puis il y a des raisons qui sont plus complotistes. On en a aussi parlé, qui sont encore pas forcément les mêmes gens. Les cercles se recoupent, mais ne se recouvrent pas totalement. Et enfin, il y a la méconnaissance et la peur simplement, qui elle va en s'amenuisant avec l'expérience et le temps passant, mais qui est aussi pas forcément des gens qui vont beaucoup crier, mais qui pour autant ne voudront pas se faire vacciner. Et on en a des exemples en interne, hein, dans nos laboratoires, dans nos hôpitaux, de gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. C'est quelque chose d'insaisissable. C'est pas forcément ceux qui vont crier le plus fort non plus. Voilà. Je crois que la partie qui crie le plus fort, qui est beaucoup liée au complotisme, elle est assez ténue finalement.
Elle est surreprésentée sur les plateformes. Évidemment, et nous journalistes, on a ce problème parce que nos informations sont diffusées sur les mêmes canaux que ces cris massifs.
On va peut-être prendre une dernière question. Merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup.